Ben bonjour à chacun, je suis très content d'être parmi vous ce matin et de vivre effectivement le temps de la prédication à vos côtés, le culte de manière générale. S'il y a des plaintes par rapport au petit groupe de quartier, vous allez voir Eric, hein, vous ne m'envoyez pas de mail, c'est lui qui peut centraliser la totalité. Je suis désolé, vous m'avez peut-être entendu tousser plusieurs fois, malheureusement je suis très allergique et l'allergie est particulièrement forte ces derniers temps, donc j'ai une sorte de rhinite qui n'arrête pas de revenir, et donc je tousse, c'est pas la Covid, mais sachez que c'est lié à cette allergie, donc je m'en excuse, je vais essayer de faire au mieux et de peu tousser pendant la prédication. Recevez aussi les salutations de l'Église baptiste de Lyon. Nos liens sont fraternels, sont aussi liés par des partenariats, comme les groupes de quartier, et pour moi c'est une très grande joie d'être parmi vous ce matin, vraiment, je le redis. Est-ce que parmi vous, il y a des cinéphiles? Oui, quelques-uns. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie des Oscars qui a eu lieu fin mars? Est-ce que certains l'ont regardé, cette cérémonie des Oscars? Non? Ben, je suis sûr que vous en avez quand même entendu parler, d'une manière ou d'une autre. Plaisantant sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, donc c'est l'épouse de Will Smith, atteinte d'alopécie, c'est une maladie auto-immune qui provoque la perte des cheveux. Chris Rock, qui est un humoriste, a provoqué une vive colère de l'acteur lors de la cérémonie des Oscars qui a eu lieu le 27 mars 2022. Will Smith s'est levé pour mettre une gifle à l'humoriste, une sacrée gifle, avant de se rasseoir et de jurer à son attention. C'était surréaliste, hein, comme scène. Résultat, quelques 8 milliards d'occurrences quand on tape Will Smith dans Google. Et des débats enflammés pour savoir si c'était justifié ou non. Est-ce qu'il a bien fait de défendre son épouse ou pas? Est-ce qu'il l'a fait de la bonne façon? Et plus généralement, la place de la violence et de la colère dans les relations humaines dans le monde. Si vous avez le temps, en rentrant à la maison, tapez Will Smith sur Google, vous verrez qu'il y a pléthore d'opinions, de possibilités offertes, d'articles de psychiatres, psychologues qui analysent toute cette scène. Et je trouve ça simplement intéressant de voir combien ça a bousculé les uns et les autres, cette scène publique. Il m'est alors assez simple d'imaginer les réactions que peuvent provoquer cet épisode qu'on va lire de la vie de Jésus, qui m'a toujours marqué dans ma lecture des évangiles. Jésus qui est en colère, alors ça arrive un certain nombre de fois, mais qui en vient aux mains. Ça vient peut-être bousculer cette image mentale que l'on se fait d'un Jésus toujours calme, posé, qui sait se retenir, agir toujours avec douceur. Car de violence, si on prend la définition du dictionnaire Larousse, hein, je lis, caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice, il en est question dans notre passage de ce jour. Alors, en fait, je vous ai dit que Jésus était en colère, j'aurais dû insister, il est très en colère dans notre texte, à tel point donc qu'il associe ses paroles à des gestes bien concrets qui ont dû créer un étonnement certain et une belle pagaille à l'entrée du temple de Jérusalem. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu, on ne se refait pas, hein, comme on étudie dans les groupes de quartier les discours de Jésus dans Matthieu, je prends l'évangile de Matthieu au chapitre 21, et on va lire des versets 12 à 17. Alors je lis dans l'évangile de Matthieu, mais sachez que cette scène qu'on va lire est racontée également dans Marc, Luc et Jean, donc dans tous les évangiles, hein, cette scène est racontée. On reviendra sur la présentation que Jean en fait un peu plus tard et qui est un peu différente des trois premiers évangiles qu'on appelle évangiles synoptiques. Je lis dans la version second 21 ce texte. Vous le connaissez, hein, en réalité, il n'y a pas de surprise. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Prions. Merci Seigneur ce matin pour encore la possibilité de nous réunir autour de ta parole, de cette parole plus particulièrement. On te demande intelligence, discernement, pour y saisir ce que tu veux nous dire, nous enseigner, te révéler à nous, peut-être d'une nouvelle manière ce matin. Nous voulons élargir notre cœur et notre intelligence à toi, nous t'en prions. Amen. Pour se redonner quelques éléments de contexte, notre récit se situe peu après l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, la fête des Rameaux, peut-être que vous avez fêté il n'y a pas si longtemps que ça, au sein de votre Église. Et donc, on se situe vers la fin du ministère du Christ. On s'approche inévitablement vers son arrestation, sa condamnation, sa mort à la croix et sa résurrection. Après donc être arrivé à Jérusalem, Jésus et ses disciples, comme beaucoup de Juifs en cette période de Pâques, vont au temple. Et c'est là que se déroule le drame. Jésus passe les portiques royaux et se retrouve sur le premier parvis. Le texte nous dit qu'il y trouve des marchands avec leurs bêtes et des changeurs de monnaie, parce que dans le temple, seule la monnaie du temple avait cours. Donc vous veniez avec votre argent de l'Empire romain, puis vous pouviez échanger à l'intérieur pour pouvoir utiliser cet argent avec la monnaie du temple pour acheter des bêtes pour les sacrifices. Peut-être un premier élément qu'on peut se dire ensemble, c'est que leur métier n'a rien de scandaleux. Pour le bon fonctionnement du temple, il était nécessaire qu'il y ait des vendeurs de bêtes pour les sacrifices et des changeurs de monnaie. Pour une raison très simple, faut s'imaginer que vous n'alliez pas faire des milliers de kilomètres avec votre mouton, ou votre bœuf ou votre pigeon décédé, mais que c'était bien plus simple de venir avec la bourse et l'argent nécessaire pour pouvoir acheter de quoi offrir le sacrifice dans le temple. Donc en soi, c'est un fonctionnement normal, il n'y a rien de scandaleux dans ces choses. Jésus le sait très bien. Alors quels sont les problèmes qui le poussent à agir de la sorte ? Parce que si on le voit réagir avec colère, c'est quand même qu'il y a un souci hein, par rapport à ce qui nous est conté. Il nous donne plusieurs raisons qui se rejoignent, et pour ce faire, il cite deux prophètes, Ésaïe et Jérémie, un petit peu plus tard, un psaume. On pourrait dire dans ce texte qu'il y a un problème d'endroit, un positionnement de ces personnes, un problème de compréhension. Si on les met à cet endroit, c'est qu'il y a un problème de compréhension, et un problème de cœur. Finalement, ça touche à l'Évangile, ce qui se passe. Et ça touche tellement à l'Évangile que ça met Jésus en colère. Un problème d'endroit, tout d'abord. Est-ce qu'on peut afficher l'illustration du temple ? Alors, le temple dont il est question dans ce texte, c'est le temple d'Hérode. Donc, Hérode avait le souhait politique de s'attacher les faveurs des Juifs. Et pour cela, il avait construit un temple magnifique, grandiose, qui était d'une architecture incroyable et qui était constitué de plusieurs parvis. Et le tout premier parvis, donc c'est le plus grand tout en haut, c'est ce qu'on appelle le parvis des gentils. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais le parvis des païens, de ceux qui n'étaient pas nés juifs ou qui n'étaient pas craignant Dieu et qui ne pouvaient pas rentrer finalement dans les autres parvis, ne pouvaient pas s'approcher davantage du lieu très saint. Donc c'était le seul endroit où ils pouvaient aller s'ils souhaitaient s'approcher du Seigneur, s'approcher de Dieu, venir et rentrer en relation avec Dieu. Donc le premier souci est que ces marchands se trouvaient, selon toute vraisemblance, dans ce parvis des gentils, hein, c'est-à-dire des païens, des non-juifs. Et ce que je viens de vous dire, c'est que du coup, c'était le seul lieu où eux pouvaient se rendre, le restant leur étant interdit. Jésus, en citant Ésaïe, rappelle le sens premier du temple. Peut-être que vous avez fait attention à cette phrase « mon temple ». Donc là, Jésus reprend le prophète Ésaïe, sera appelé une maison de prière. Il cite qu'une partie, en fait, du verset. Mais pour les auditeurs de l'époque, ça devait être assez évident. La suite de ce texte, c'est de dire « c'est une maison de prière, disait Ésaïe, pour toutes les nations ». Il y avait une dimension universelle au temple. C'était pour tout le monde le lieu de la présence divine et la possibilité pour les gens du monde entier qui se déplaceraient jusqu'à Jérusalem de venir et de rentrer en relation avec Dieu. Ce n'était pas d'abord un lieu de sacrifice. Lorsque Jésus cite ce texte, il veut d'abord dire que le temple, ce n'est pas le lieu du sacrifice en premier. C'est d'abord un lieu de prière. C'est d'abord, je le redis, un lieu de relation avec Dieu. Ce n'est pas non plus un lieu de discrimination, si c'est pour toutes les nations, mais un lieu ouvert. Et là, ce parvis, avec la présence de marchands, ne permettait ni la place pour les païens, ni un espace de prière avec le Père. Je vous mets au défi d'essayer de vous concentrer dans votre prière s'il y a des gens qui crient juste à côté de vous, des animaux possiblement qui bêglent, etc. Vous imaginez cette scène hein, dans ce parvis, des animaux un peu partout, des gens qui crient, peut-être des promotions aussi qui sont offertes, j'en sais rien, je n'étais pas là à l'époque. Voilà, toute cette scène de, d'un brouhaha incommensurable, et puis on vous dit, voilà, c'est le lieu là où tu peux rentrer en relation avec Dieu. Tu n'as pas le droit de passer les autres parvis, mais là tu peux t'arrêter, si tu veux, tu peux prier. Jésus ne supporte pas la vue de cette chose. Les marchands avaient le droit d'être présents, les changeurs de monnaie avaient le droit d'être présents, mais ils auraient dû être à l'extérieur, de l'autre côté des portiques. La place, ce parvis, c'était d'abord un lieu de prière, d'abord un lieu où chacun, chaque être humain, y compris le païen, qui n'était pas né juif ou qui n'avait pas fait le processus de craignant Dieu, pouvait s'approcher et pourquoi pas venir à la découverte de ce Dieu trois fois saint. Venir et accueillir une parole pour lui. Le deuxième point, c'est un problème de compréhension. À ce premier état des lieux, Jésus-Christ ajoute un deuxième problème, celui de la compréhension du temple. Alors, je vous ai donné déjà quelques éléments de cela. C'est un lieu de sacrifice, certes, mais ce n'est pas d'abord ça, c'est d'abord un lieu de prière. En intégrant directement les marchands au sein du temple, on signifie que la mission de ce lieu a changé. De lieu de culte de Dieu, elle est devenue système religieux humain. Et pire que ça, on a ancré par la place de ces marchands et de ces changeurs de monnaie que le système des sacrifices n'est pas transitoire. Ce que les prophètes, les psalmistes n'ont cessé d'exprimer dans l'Ancien Testament. Vous avez beaucoup de prophètes et de psalmistes qui disaient que le Seigneur n'avait pas le souhait de la graisse des animaux, mais d'abord d'un cœur qui avait changé, hein, de passer de cœur de pierre à des cœurs de chair. C'était ça l'important dans la relation à Dieu. Ce n'était pas de venir systématiquement avec des animaux à sacrifier, mais ça devait être un système transitoire qui appelait à la compréhension en fait que les sacrifices ne pouvaient pas résoudre la totalité du problème du péché et du mal. Mais si vous faites rentrer du coup ce système dans le temple, vous êtes en train de dire que finalement vous n'avez plus d'attente que ça change. Il n'y a plus d'attente, c'est là pour l'éternité dans ce parvis. Il y aura toujours ce système religieux humain présent dans le temple. Et c'est là où la parole de Jésus, c'est une caverne de brigands, de voleurs. Il y a la donnée de la mission qui a changé, d'un transitoire qui n'est plus, mais aussi d'un lieu d'échange commercial. Dans le temple, le commerce est devenu un élément essentiel du rouage. Les faire rentrer sur ce parvis, c'est dire que le Seigneur ne réalisera pas ses promesses. C'est l'enfermer dans un système humain plutôt que de le rechercher et chercher sa volonté. C'est de dire finalement ce qu'a dit les prophètes, ce qu'ont dit les prophètes, les psalmistes. On n'attend plus ça. On est bien dans ce système transitoire. On veut le garder maintenant pour l'éternité. Et alors, n'est-ce pas parfois notre propre lutte, nous, aujourd'hui ? Un exemple qui me frappe, c'est la question de son retour. Cette semaine, on a eu les groupes de quartier, y compris du coup dans notre église, vous avez compris qu'on a le même calendrier au sein de nos deux églises, et le texte étudié était Matthieu 24, texte de la fin, texte apocalyptique dans son style littéraire, et qui, Jésus vient, donne quelques éléments, mais il vient aussi poser quand même qu'il reviendra un jour avec puissance, avec autorité. Vous avez cette image assez grandiose du ciel qui s'ouvre, des trompettes qui résonnent, des personnes qui sont mises toutes ensemble. D'ailleurs, c'était un grand sujet de conversation dans notre groupe de quartier. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. On a essayé d'imaginer la scène. Certains ont imaginé un vaisseau extraterrestre qui arriverait. D'autres que ça serait la télé qui retransmettrait, d'autres que ça soit par TikTok, etc. Des sourires se sont esquissés, mais juste, voilà, imaginez la scène de ce Jésus qui revient. Et en même temps, tout le monde peut voir, hein, c'est difficilement imaginable. Partout sur la terre, on verra que le Christ est revenu. Mais en même temps que je dis ça, en même temps que je crois que c'est une fondation de notre espérance chrétienne, ça fait quand même 2000 ans qu'on le dit. Et déjà, à l'époque de Jésus, les contemporains, ils ont attendu ce moment. Il y a beaucoup de générations qui sont passées. Peut-être même que ça ne sera pas notre génération qui vivra ça, j'en sais rien. Ce n'est pas une parole prophétique que je dis, c'est simplement une réalité possible. Est-ce que parfois, il n'y aurait pas cette lutte intérieure de dire, en fait, cette promesse, on sait qu'elle est là. On se la récite ensemble, régulièrement. Mais est-ce qu'on a toujours conscience que c'est une réalité qui va se vivre ? Qu'on est dans une période transitoire. Et que si on ne fait plus droit à cette transition, alors ce n'est pas la totalité des promesses divines qui sont annoncées. Et un des lieux, on formule ça de la plus belle des manières, je crois, c'est la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est le rappel de ce qui s'est vécu par la venue du Christ. Mais je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est la ferme espérance qu'un jour, avec vous tous, avec tous les chrétiens qui m'ont précédé, avec les chrétiens qui seront là au jour où le Christ revient, on sera à cette table, une fois pour toutes, pour l'éternité, avec le Christ. Cette table, ce repas qu'on prend, ces éléments qu'on prend, c'est dans l'attente d'une table grandiose avec le Christ ressuscité pour l'éternité. Et une tentation, ça serait de minorer cet aspect, de se dire, oui, il viendra. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on le dit, mais à un moment, ça va arriver. Et c'est exactement cette lutte qui se joue dans la venue des marchands. C'est de dire, voilà, c'est plus transitoire, on n'est plus dans la période de transition. Pour l'éternité, ça sera le système sacrificiel. Et on ne fait plus droit à la promesse d'un Messie, de quelqu'un qui viendra achever cette période de transition. Alors, vous l'aurez compris, celui qui vient l'achever, c'est finalement le Christ. Donc il est question aussi de lui, dans ce texte, de sa place, de son œuvre, de son ministère, de ce qu'il doit faire. Alors de ces deux constats arrive naturellement le troisième, hein, c'est un problème d'endroit, un problème de compréhension, mais qu'un problème plus fondamental qui se joue, c'est ce que doit être l'Évangile. En s'enfermant dans ce système et en privant les païens de leur place, on ne peut pas accueillir et intégrer ce que revêt le royaume des cieux. La colère de Jésus s'exprime en lien avec ce qu'il considère comme sacré. On a tous un domaine sacré dans notre vie, quelque chose d'intouchable, qui appelle nos valeurs, notre système éthique, moral. Et je vous conseille un ouvrage en ce sens de Jacques Ellul, que j'ai trouvé très intéressant, et qui s'appelle « Les nouveaux possédés ». Il n'y a rien d'exorcisme là-dedans, sinon d'un exorcisme contemporain, de dire finalement, vu qu'on a tous un sacré, soit c'est Dieu, soit c'est autre chose. Ça peut être la nature, ça peut être la technique. Jacques Ellul avait développé que la modernité, tous les systèmes techniques peuvent devenir notre sacré à nous. Mais là, dans ce texte, le sacré, l'intouchable de Jésus, ce qu'il met en colère profondément, c'est de dire, en fait, moi je viens Et mon Père a la même attente que vous entriez en relation avec moi. C'est la relation divine qui est le plus important. Et si vous ne permettez pas cela, alors ma colère est sans limite. Ma colère est sans limite parce que c'est tout l'objet de ma venue, tout l'objet de l'histoire qui se raconte dans la Bible, d'une humanité pécheresse qui un jour aura la possibilité, homme, femme, enfant, qui que vous soyez, quel que soit votre statut social, votre origine, la possibilité de venir en relation avec Dieu par le Fils. Jésus, en faisant de la place, signifie d'abord sa réelle place à lui. Il est venu acter que la transition est terminée. Je reviens au chapitre 24, parce que je sais que vous l'avez étudié pour un certain nombre d'entre vous, mais la question qui suscite la réponse de Jésus au chapitre 24, c'est il regarde le temple, les disciples, et puis Jésus leur répond, ça va être détruit. À un moment, ça ne sera plus. Mais ça sera reconstruit en 3 jours. Il parle du coup de sa mort et de sa résurrection. Ce que Jésus veut signifier, c'est que c'est lui le temple. Sa réelle place, c'est là, c'est la fin de la transition. Il est le temple pour chacun, pour chacune. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, je suis très imaginatif. Alors parfois, ça me joue des tours, malheureusement, mais sinon, ça me fait souvent du bien, parce que quand je lis des textes, j'imagine la scène. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les petits peuvent s'en saisir dans ce texte. Fermez les yeux si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais imaginez juste la scène des boiteux, des aveugles, des enfants qui crient dans ce parvis. Et des boiteux et des aveugles que Jésus vient de guérir. Eux qui n'avaient pas de place dans le système du temple. Qui ne pouvaient pas rentrer. Qui avaient juste une vue extérieure des choses. Je pense qu'ils se saisissent du brouhaha, de la pagaille. Faut imaginer, comme je vous l'ai dit, je suis imaginatif, donc désolé si je pars un peu dans... Mais je pense que c'était un peu ça. Vous avez les gardes du temple qui sont totalement dépassés, des gens qui crient, les marchands qui sont en train de partir avec leurs tables cassées, leurs chaises qui ont été renversées, donc la panique totale. Vous avez des animaux là-dedans, donc faut imaginer aussi les animaux qui partent. Vous avez là des gens qui crient, qui hurlent dans tous les sens. Vous en avez qui se permettent du coup de rentrer, parce que c'est peut-être la seule occasion qu'ils auront. Les boiteux, les aveugles, les enfants qui rentrent, qui se disent, c'est l'occasion ou jamais. Ils rentrent à l'intérieur, et là, Jésus qui les accueille, qui les guérit. Et donc, vous voyez des boiteux qui commencent à gambader dans le parvis du temple. Vous avez des gens qui ne voyaient pas, qui commencent à voir et qui s'écrient, je vois, je vois. Et là, vous avez des enfants qui crient « Hosanna au fils de David !» Ça, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est la bonne image de ce que devait être ce parvis et ce temple. Et l'expression des enfants, elle est significative. « Hosanna, de grâce sauve-nous, gloire et louange à toi, au fils de David !» C'est exactement celle scandée par la foule lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Relisez la fête des Rameaux, c'est exactement la même expression qui est utilisé. Mais là où dans la fête des rameaux, on peut mettre un bémol, parce que la foule va crier cette expression, mais quelques jours après, elle est prête à crucifier Jésus sans aucune difficulté. Donc on ne sait pas si elle a réellement compris ce que signifiait ce qu'elle proclamait. Là, les enfants, eux, le savent. Ils en sont les bénéficiaires, tout de suite, maintenant, à l'instant T. Les enfants comprennent, je crois, tout à fait ce qu'ils disent. En témoignage avec la citation de Jésus du psaume 8, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. C'est les petits qui comprennent le royaume des cieux. Alors, je ne sais pas si ça vous fait plaisir de l'entendre, mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Vous êtes des petits, je suis un petit. C'est dans l'acceptation de ma condition, de ma fragilité, de ce que je suis d'insignifiant aux yeux du monde, que je peux venir et ne plus être insignifiant aux yeux du Père, de Jésus, qui m'accueille. Concrètement, la colère de Jésus, mais aussi son accueil des exclus, et la spontanéité de la foi des enfants, eux qui ne connaissent pas les us et coutumes du temple, ça ne peut pas nous laisser indifférents. On lit ce texte et on devrait être émerveillé de ce que Jésus est en train d'accomplir. Et on devrait être aussi parfois, je crois, en colère quand on se ferme cette possibilité-là. De ce royaume où la joie s'exprime, peut-être de manière inhabituelle, très différente, mais elle s'exprime parce que les uns et les autres touchent du doigt ce que le Christ est venu accomplir pour eux et pour le monde. Alors, si Jésus, justement, s'inscrit dans une tradition prophétique, on a Ésaïe, Jérémie, qui sont repris dans ce texte, les psaumes, et que l'on considère, parce que je vous ai promis qu'on allait parler de l'évangile de Jean, on va en parler très brièvement, que Jean rapporte un autre épisode similaire. Parce que oui, en fait, si vous lisez les trois évangiles, vous avez, les trois premiers, vous allez voir que c'est à la même place, mais si vous lisez Jean, donc au chapitre 2, vous allez voir que c'est un petit peu différent, la manière dont c'est raconté. Tout d'abord, on n'est pas sur la fin du ministère de Jésus, mais son début. Donc, chronologiquement, ce n'est pas marqué au même endroit. Et plusieurs commentateurs se sont dit, ben, en fait, Jésus l'a fait plusieurs fois, ce geste. Il l'a fait une fois au début de son ministère et une fois à la fin. Et je crois que c'est une réelle possibilité. Je crois que c'est une réelle possibilité. Alors, il y a cette possibilité qui est aussi marquée parce qu'il y a des différences dans les récits. Le récit dans Jean, un des éléments en tout cas de différence, c'est qu'il y a un fouet. Je ne sais pas si vous avez déjà marqué, mais il y a un fouet pour Jean, alors que ce n'est pas forcément le cas dans les trois premiers évangiles. Et donc, il y a la chronologie qui est différente. Alors, je souris parce que plusieurs commentateurs se sont dit « Oui, mais quand même, la deuxième fois, ils ont dû se méfier, les marchands. » Ils ont déjà vu Jésus venir une fois avec un fouet. Ils ont dû se méfier la deuxième fois. Ils ont dit « Oula, il revient, ça va être la même pagaille. » Alors, il faut juste se dire que finalement, le ministère de Jésus, c'est quand même plusieurs années. Et donc, s'il l'a fait au tout début et à la toute fin, il y a quand même plusieurs années qui se sont vécues. C'était peut-être pas les mêmes marchands. Et puis même, peut-être qu'ils avaient oublié. Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont vraiment vu Jésus. Ils ont dit « Ah, mais je le reconnais, c'est lui qui avait tout cassé. » Et qu'ils ont commencé à paniquer sévèrement. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y a eu cette scène plusieurs fois. Qui s'est montré. Et alors, on peut se dire que si Jésus l'a fait plusieurs fois, s'il s'inscrit dans une tradition prophétique où les prophètes ont aussi dit et dénoncé les choses, c'est que la tentation exprimée dans ce récit, de s'enfermer dans nos conceptions, nos façons de définir la foi, ou la vie de l'Église, c'est toujours présent, même aujourd'hui. Même des siècles après, c'est la même tentation pour nous de faire ça. Sommes-nous prêts à accueillir des personnes qui, nous, ne ressemblent pas? Alors, faire une place dans l'Église et dans nos vies avec leur manière d'exprimer la foi, peut-être, je l'ai déjà dit, mais différente, inhabituelle, peut-être avec des cris, peut-être en bougeant. Quelle est la place des enfants dans l'Église? Il y a toute une réflexion, par exemple, de la Fédération là-dessus, comment leur faire place dans le culte, eux qui sont souvent de bons exemples pour nous dans la spontanéité de la foi, dans l'accueil simple de l'Évangile. Avons-nous conscience que le Seigneur peut nous bousculer, qu'il a le droit et autorité pour nous remettre en question, que parfois même il va se mettre en colère contre nous, pour nous inciter à réfléchir son royaume et son message? Alors les mots de Michel Green, théologien et prêtre anglican, je reprends ça du commentaire de Christophe Paya, peuvent résonner avec force, je crois. Le jugement de Dieu sera toujours sur les adhérents de la religion chrétienne qui résistent obstinément au changement et tentent d'enfermer l'Esprit de Dieu dans ce qui a toujours été fait, ce qui est sûr, ce qui ne prête pas à débat. Dieu jugera les prêtres, alors c'est un prêtre anglican, mais on peut dire les pasteurs, les responsables, qui ne conduisent pas la louange avec une adoration sincère, qui ne se réjouissent pas que des voix inhabituelles adorent Jésus et que des vies brisées soient guéries par sa grande puissance. Le défi, il est là, dans l'Église, c'est de passer l'étape du confort pour savoir accueillir chacun, tous. Savoir accueillir celui et celle qui accepte l'Évangile et qui ne sera pas comme toi, comme moi, n'aura pas le même vécu et pourtant le socle commun de la foi qui nous unit. Nos prières, nos louanges, notre vie de tous les jours, sont-ils le reflet de l'Évangile? C'est la question que pose ce texte. sommes-nous encore pris aux tripes ? Dans l'évangile de Jean, les disciples qui voient ça, et d'ailleurs, vous l'aurez noté, les disciples n'ont aucune réaction dans ce texte, ils sont simplement spectateurs de ce qui se passe. Mais dans l'évangile de Jean, un des disciples fait la remarque, c'est un feu qui le dévore. Est-ce que nous sommes pris aux tripes ? Est-ce qu'il y a ce feu qui nous dévore en voyant les besoins de nos contemporains de découvrir le Christ ? Et du coup, avec la question à côté, comment l'annoncer ? Ou est-ce qu'on va réagir par indignation ? Comme les prêtres et les spécialistes de la loi qui viennent et qui disent « Mais t'entends ce qu'ils disent ? Tu vois le bordel que c'est là dans le parvis ? C'est pas possible, même toi tu peux pas accepter. » Jésus leur répond, mais pourtant c'est tout le royaume là que je vous annonce. C'est tout le royaume qui se vit. Alors le texte ne nous dit pas qu'un culte devrait être un grand n'importe quoi. Qu'il n'y a pas une certaine liturgie à respecter. Mais simplement peut-être nous redire que l'Église est autant un lieu institutionnel, un lieu où se vit la foi par des rencontres, mais aussi un lieu d'accueil, un lieu ouvert, un lieu qui ne doit pas rester fermé, qui doit se demeurer public, accueillir chacun et chacune dans son histoire. Si lui ou elle veut s'approcher du Christ, l'Église doit tout mettre en œuvre pour tracer un chemin vers cela. Dans ce texte, Jésus nous invite à ouvrir l'espace de nos cœurs et faire place à l'œuvre de son esprit en nous et dans la vie de nos contemporains. Prions. Seigneur, on imagine cette scène et quelque part, elle nous bouscule, elle me bouscule intérieurement. C'était un problème, effectivement, d'endroit, de compréhension. Il n'y avait plus la place pour ceux et celles qui te cherchaient sincèrement, qui avaient besoin de toi. Merci, Seigneur, de t'être saisi de ce feu qui te dévorait, de ce désir que tout les êtres humains aient une relation avec toi, même les exclus, même les petits, même ceux que le monde considère fragiles. Seigneur, tu as su accueillir le boiteux, l'aveugle, l'enfant, qu'ils soient des exemples pour nous, chacun d'entre eux. Que ton message délivré par ta colère, mais aussi ton accueil, soit un message qui résonne en nous. Que nos églises, Seigneur, soient des lieux d'accueil, des lieux de la démonstration possible de ta puissance physique, mais surtout spirituelle. Tu es venu offrir au monde le message de l'Évangile, une bonne nouvelle. Tu es le temple. Tu es celui qui a fait passer la transition, nous l'avons vécu ce matin par la Sainte Cène, un sacrifice une fois pour toutes. Et c'est à toi que nous regardons ce matin. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence, notre cœur, notre désir de porter ce message à nos contemporains. Donne-nous de savoir comment le faire, de nous appuyer aussi sur l'aide de ton esprit en cela. Donne-nous à être renouvelés dans notre adoration de toi, du Père. Seigneur, nous attendons ton retour. Ta venue. Dans cette attente, nous voulons nous tenir persévérants, fidèles, dignes de toi. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen.